Bonjour et bienvenue sur le podcast Diversité et Inclusion en Entreprise. Je suis Adrien Figula-Letor, cofondateur d'AFL Diversity et du Grand Prix Diversité et Inclusion. Dans cette troisième saison du podcast, je vous propose de partir à la découverte de personnalités qui œuvrent pour la diversité et l'inclusion dans les organisations. Ce podcast est fait pour vous donner des idées, vous donner envie d'agir et faire avancer vos organisations sur ces enjeux. Bonne écoute! J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode Manel Oliva Trastoy, associé de Bain & Company. Bonjour Manel.
Bonjour Adrien.
Alors Manel, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter aussi Bain & Company ?
Très bien, ben, je commence par Bain. Donc Bain est une société de conseil en stratégie et management. C'est l'un qu'on appelle des MBB, donc l'une des trois grandes en stratégie et management. Fondée en 1973, et dont notre objectif, c'est de conseiller, alors principalement les grandes entreprises, mais ça nous arrive de faire aussi d'autres choses, comme des associations, c'est de les conseiller dans leur stratégie de développement, leur capacité d'émener, faire du post-merger integration, de l'organisation, de la transformation. Donc souvent des sujets qui touchent vraiment au cœur du réacteur, à l'organisation, à la stratégie de l'entreprise. Et donc pour cela, à Paris, nous sommes à peu près 300 collaborateurs, Bain ayant des bureaux un petit peu partout dans le monde. Donc nous sommes une entreprise vraiment globale. Et moi, dans tout ça, ben, je m'appelle Manel. Je suis effectivement un associé. Je le suis depuis 2 ans et demi. Je travaille surtout dans les secteurs de la grande consommation et de la pharma. Je suis oncologue de formation. J'ai un doctorat en biologie moléculaire en cancéro. Et par le fait de changements de carrière moultes et variés, je me suis retrouvé dans le conseil, une entreprise qui me plaît beaucoup du fait de la diversité essentiellement des fonctions qu'on y mène ou des sujets qu'on y mène. Et depuis 2 ans, je suis le responsable Diversity and Inclusion du bureau de Paris, puisque je pense que c'est de ça qu'on va parler.
Très bien, alors justement, tu es responsable de ce sujet-là. Pourquoi ? Comment ? Est-ce que c'est en plus de ton job ? Est-ce que c'est un job à temps plein ? Pourquoi est-ce que ce sujet-là est important pour toi ?
C'est un job en plus. Donc, de mon job, en général, dans l'industrie du conseil, les partners se répartissent les responsabilités managériales du bureau. Et donc, moi, j'ai récupéré celle-ci, sachant que c'est, oui, en top de mon travail habituel. Bah, pourquoi celle-là ? Bah, parce qu'elle me touche au plus profond de moi-même, étant moi-même membre de la communauté LGBT. Alors déjà, longtemps, j'ai eu du mal à m'accepter au travail. Donc, il y a eu un cheminement qui s'est fait. Ça n'a pas été très compliqué dans mon cas, mais enfin, quand même. Et aujourd'hui, je suis très épanoui, marié depuis de nombreuses années, avec 2 enfants. Et quelque part, il y a ce côté de vouloir give back to the community, donc faire quelque chose en retour à la communauté. Le sujet est un sujet parfois compliqué, et donc le comprendre dans sa chair peut aider à se dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins, comment focaliser les efforts. Donc voilà, c'est un mélange un petit peu égoïste de faire quelque chose qui me plaît et pour quelque chose qui me plaît, et de rendre à d'autres ou d'essayer de rendre la vie de d'autres plus facile.
C'est un peu la définition d'une personne engagée. Et bravo pour cela. C'est vrai que dans un contexte où on sait qu'il y a environ 11% des salariés qui se déclarent LGBT+, en entreprise, donc ce n'est pas anodin, on sait malheureusement qu'il y en a 1 sur 2 qui ne fait pas son coming out. 1 salarié sur 2, ça veut dire plus de 5% des salariés en France ne sont pas finalement eux-mêmes en entreprise et ne mettent pas cette partie-là d'eux-mêmes au service justement de l'entreprise, du business et juste du bien-être, puisque je pense que tu es bien d'accord avec moi, on est plus performant quand on peut être soi-même.
Alors si tu veux qu'on parle de ça, on pourra parler longtemps. Là, tu as complètement raison. Et c'est... En fait, nous, on voit les choses sous 3 angles chez Bain. Tout d'abord, il y a un angle recrutement. Avant que les gens se sentent bien chez nous, encore faut-il qu'ils viennent. Et on veut que chaque personne, chaque jeune en particulier, qui se dit qu'il aimerait faire du conseil dans sa vie, je ne veux pas qu'aucun d'entre eux se prive de postuler parce qu'il ou elle pourra penser que ça ne sera pas un environnement pour lui ou pour elle. Donc, il y a cet angle de recrutement où nous travaillons beaucoup en partenariat, en particulier avec les écoles où on recrute, pour s'assurer que les gens comprennent que c'est un métier qui est ouvert pour tous, qui est fait pour tous. Après, il y a l'angle affiliation. Je pense que c'est ce que tu mentionnais. où il faut s'assurer là que les gens se sentent bien chez nous pour deux raisons. La première, c'est pour qu'ils restent. Mmh. Mais la deuxième, c'est parce qu'on performe beaucoup mieux. Il y a une fameuse étude d'HBR qui maintenant date un petit peu, hein, mais qui est toujours d'actualité et qui a montré par A plus B qu'une équipe diverse performe mieux qu'une équipe non diverse. Et mieux que ça, l'équipe diverse croit qu'elle performe moins bien. Donc c'est justement parce qu'il y a une confrontation d'idées qui est plus forte, ça donne ce sentiment qu'on bosse moins bien, parce que comme on a des idées différentes, on croit qu'on avance moins bien, mais en fait l'outcome est bien meilleur que quand tous les gens se disent « Ouais, l'idée est top, c'est celle-là », et voilà. Donc ça c'est notre deuxième angle. Et le troisième angle est un angle de awareness en général et de sensibilisation, où donc nos actions sont menées pour nos collaborateurs qui ne se considèrent pas membres de la diversité et pour leur faire comprendre pourquoi c'est important, pourquoi l'inclusion est importante. Donc à peu près, on dépense un tiers de notre effort dans chacun de ces trois leviers.
Super, justement, est-ce que vous commencez à voir des résultats finalement ? On sait que ça prend du temps de voir l'entreprise changer, se transformer sur ces enjeux sociétaux. Est-ce que ça commence à se percevoir ? Et est-ce que vous avez, pour être très clair, aujourd'hui des collaboratrices ou des collaborateurs qui vous rejoignent parce que vous êtes une entreprise engagée sur ces sujets ?
Alors, à aujourd'hui, je peux te dire que je crois que oui, qu'on voit des choses changer. L'an prochain, je pourrais te dire si c'est vraiment vrai. Donc, pourquoi ? Nous travaillons avec des gens que tu connais bien, qui s'appellent Mixity, qui nous ont aidés à mettre en place un certain nombre de choses, dont des indicateurs de suivi de nos efforts ou de l'impact que nos efforts ont. Comme tu le sais, en France, ce n'est pas très évident de mettre en place de la donnée sur ce sujet. Donc, on a travaillé avec eux pour faire le maximum qui est possible, tout en restant, bien entendu, dans le cadre de la loi. Et donc, nous avons lancé un premier sondage quand on a commencé à travailler avec eux l'an dernier, je devrais dire avec elles. Et ce sondage a montré que 69% des employés de Bain à Paris sentent que le niveau d'inclusion à Paris est très bon. Ça veut dire qu'il m'en reste encore 31 à aller pêcher. Et donc, depuis, on a lancé des formations où nous passons tous les employés de l'entreprise par cette formation, que ce soit les plus seniors comme les plus juniors. Alors, la formation est modulaire, hein, donc les gens plus seniors vont avoir des modules différents, peu importe. Ce qui compte, c'est que tous les employés passent à travers cette formation. On fait des actions de communication et d'awareness beaucoup plus soutenues qu'avant. On n'hésite pas aussi à aller dans les messages parfois un peu choc pour vraiment faire ouvrir les yeux. Parce que souvent, enfin chez Bain à Paris, je crois que la malveillance, ça n'existe pas. Il n'y a pas de malveillance. Mais il y a des maladresses et il y a un manque de connaissances. Et donc, ces formations sont là aussi pour donner les codes, apprendre aux gens comment réagir à certaines situations. Et donc, je pense que tout ça va apporter ses fruits. J'ai vraiment le sentiment que c'est le cas, puisqu'on voit les gens parler beaucoup plus de diversité dans les couloirs. Les gens viennent me voir pour me poser des questions. Donc, je suis persuadé que ça marche. Mais jusqu'à l'an prochain, on ne refera pas le sondage à nouveau. On ne saura pas pour sûr.
Merci de le rappeler, Manel. Ce qui ne se mesure pas n'évolue pas. C'est évidemment super important de mettre en place des indicateurs de mesure de performance également sur ces sujets-là pour permettre de mesurer et de voir l'évolution. Et je suis également confiant. Chez Bain, donc vous êtes un cabinet de conseil. Votre rôle est de conseiller vos clients. Est-ce que vous avez un impact sur ces enjeux diversité et inclusion justement auprès de vos clients ?
Alors, je pense que oui. Mais il faut distinguer deux choses. Un, c'est que nous, les missions qu'on va faire pour nos clients, c'est quand même nos clients qui nous demandent la mission. Donc, si notre client vient nous voir pour un sujet d'excellence opérationnelle dans le marketing, peut-être que le sujet D&I ne sera pas un sujet qui sera fortement abordé. Par contre, si on vient chez nous en nous demandant conseil dans un sujet plus de culture d'entreprise, d'organisation, de transformation, et là, ça sera des sujets qu'on va, même si on ne nous le demande pas, nous, on risque de les pousser, au moins pour s'assurer que le client ne l'oublie pas et que ça peut être un des angles du projet. Donc ça, c'est un exemple, mais là, pour le coup, on est vraiment dans le projet. Mais en dehors du projet, le deuxième volet que je te mentionnais, c'est que nous, on essaie d'être exemplaires parce que nous faisons. Donc, À partir de cette année, nous sommes en train de mettre en place un KPI. Alors, bon, si les collaborateurs Bain m'entendent, c'est un peu une première, mais ça sera annoncé un petit peu plus tard. Tant pis. On va commencer à mettre en place des KPI sur la diversité de nos équipes qu'on déploie face aux clients. On va aussi commencer à mesurer le nombre de fois, alors je passe la technique, hein, mais le nombre de fois où nous allons mettre en avant le sujet D&I de façon non sollicitée. Parce que si on est sollicité, c'est facile. Donc, de façon non sollicitée. Donc, on va suivre tout ça, on va pousser les partenaires, donc mes associés, à pousser les sujets. Donc, comme je te disais, lead by example, et soyons nous-mêmes divers, amenons des équipes diverses, mais aussi du fait qu'on a un accès privilégié aux exécutifs de ces entreprises, amener le sujet proactivement, leur dire en termes d'inclusion, en termes de diversité, où en êtes-vous? Êtes-vous satisfait? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire? Et à partir de là, voir où ça nous mène.
Parce que c'est vrai que tu parles du top management, c'est essentiel sur ces sujets d'avoir l'engagement et de réussir à engager en tout cas le top management, parce que finalement, sans le soutien des dirigeants, l'entreprise, quelle qu'elle soit, quel que soit son secteur d'activité, sa taille, finalement, elle va un peu pédaler dans la semoule tant que les patrons n'ont pas dit « c'est un enjeu prioritaire et stratégique pour nous et il faut qu'on avance sur ces sujets-là, non ?»
Oui. Et d'ailleurs, Adrien, une petite souris m'a dit que tu avais un petit rituel dans ces podcasts et que tu terminais toujours par un conseil pratique que tu demandais. Et c'est vraiment celui-là que je donnerais. Pour moi, ce genre de transfo ne marche que si elle commence par un mot. Vraiment par un mot. C'est trop facile d'aller demander au middle management, voire aux employés, d'être exemplaires en termes de diversité ou en termes d'inclusion. Je trouve que c'est facile. Donc, il faut prendre les codires des entreprises et c'est par là que ça commence. Le PDG, le GM, la personne responsable doit parler de diversité dans ses discours, dans ses prises de parole et pas seulement dans les prises de parole qui sont sur le sujet, mais dans les prises de parole, si je peux me permettre, lambda. C'est-à-dire, il fait un point business à l'adresse de ses collaborateurs, en disant voilà comment ça se passe, le business et tout, il rajoute un sujet D&I. Et il y en a tellement qu'en fait, il ou elle, bien sûr, peut choisir. Donc, c'est pas tout le temps le même. Et donc, ce qu'il faut, c'est que les dirigeants prennent la parole sur ces sujets, qu'ils ou elles montrent que c'est très important et qu'ensuite, qu'ils fassent vivre l'exemple. Donc, qu'ils montrent l'exemple et que ce soit les premiers. Alors, après, on en parlera, si tu veux, aussi du côté que je ne veux pas créer une société policée. Hein. Mais il faut donner l'exemple, faire attention à comment on communique, à quels sont les comportements qu'on va montrer. Et à ce moment-là, on peut demander aux autres de le faire. Mais c'est trop facile de commencer par en bas. Non, il faut commencer par un mot.
Merci beaucoup. Alors, justement, comment est-ce que vous agissez chez Bain pour faire du cabinet une entreprise inclusive?
Eh bien, écoute, ça a commencé, comme je te l'ai dit, je suis allé voir la patronne du bureau à Paris, qui s'appelle Ada, qui est extrêmement consciente des sujets de diversité. Et on en a commencé à parler un petit peu, jusqu'au jour où elle m'a dit « Est-ce que tu aurais envie d'essayer de pousser davantage le sujet ?» Et donc, à ce moment-là, on a mis en place une équipe. Nous sommes à peu près 30 collaborateurs de Bain à Paris engagés en D&I. Et ces gens-là, c'est des gens qui sont hors RH. À côté de nous, il y a bien sûr la fonction RH qui nous aide, et encore heureux qu'ils sont là, la fonction marketing, la fonction communication. Toutes ces fonctions nous aident. Mais en dehors de ça, sur les gens qui sont vraiment en front line, en business, nous sommes une trentaine à avoir une responsabilité de près ou de loin sur le sujet. Et c'est ces 30 personnes-là. Donc parmi les 30, il y a 6 ou 7 associés quand même. Nous sommes à peu près une quarantaine d'associés, un petit peu moins. Donc c'est pas mal d'en avoir 7 qui sont engagés, chacun sur un sujet, pour faire avancer nos efforts. Donc voilà, ça commence par un mot, ça commence par aller dire à ta GM, il faut que tu parles davantage de diversité, Ada, c'est très important, ce qui est très facile pour Ada de faire, mais encore faut-il y penser. Et puis voilà, les prises de parole aussi de mes collègues, leur dire quand tu prends la parole, en meeting interne, quand tu es avec tes équipes, parle de diversité. Même si tu crois que tu ne l'es pas, tu as probablement quelque chose que tu peux raconter. D'accord? Donc, creuse-toi un petit peu les méninges et tu vas voir, tu vas trouver. Et donc, parle de diversité. Ça fera, au minimum, ça fera que les gens de la diversité vont se dire que c'est un sujet qu'on peut aborder. Et rien que ça, c'est très important. Donc voilà un petit peu comment on essaie de mener les choses. Et Ona, tu sais, d'ailleurs, tout à l'heure, j'aurais pu te le dire, quand tu me demandais si on voyait de l'impact, je me suis cantonné à te dire que notre sondage, on le referait l'an prochain, mais on a quand même de l'impact, parce qu'aujourd'hui, bah, tu sais, le fameux score d'égalité, l'index d'égalité professionnelle, bah, Bain Paris a 94 sur 100. C'est quand même un score très élevé, sauf erreur de ma part, c'est le plus élevé dans notre industrie, nous en sommes très fiers, c'est notamment lié au taux de féminisation chez nous, qui est très élevé, parce qu'en fait, chez Bain à Paris, c'est un sujet qu'on traite depuis très longtemps, et pas depuis que c'est devenu, si tu me permets, un sujet à la mode. Donc voilà, 94%, donc voilà, donc c'est un petit peu comme ça qu'on comprend les choses et qu'on essaie de les faire avancer. On a enclenché des discussions avec nos écoles cibles, là où nous recrutons les étudiants, et leur dire, écoutez, c'est simple, hein, si vous, vous n'avez pas une population plus diverse, nous on l'aura pas, parce qu'on recrute chez vous. Donc là, il faut arrêter de discuter. Il faut s'y mettre. Donc la diversité, parité homme-femme, bien sûr. La diversité sociale, on en parle beaucoup en France, mais moi, Adrien, si tu me permets un peu provocateur, je pense pas hein, qu'on y aille vraiment sérieusement, parce que on voit très bien qu'on donne des bourses, mais après, les gens sont stigmatisés, parce que c'est les boursiers, tout ça. Donc je sais pas, il y a quelque chose d'autre, je crois, à inventer. Le système de la bourse est très important, il faut absolument le garder, mais je pense que ce n'est que le début. Il faut aller plus loin. La mixité d'origine, la mixité d'orientation sexuelle, bien évidemment, la mixité d'handicap. Dans notre industrie, on en est très loin. On en est très loin. Et c'est une de nos priorités où nous travaillons très fortement. Déjà, à faire en sorte que ben, les conditions de travail sont adéquates, mais aussi à faire un peu ce que tu disais sur les LGBT au début, à faire en sorte que les gens se déclarent, parce que nous sommes convaincus que nous avons plus de gens que ceux qui, sont déclarés chez nous, qui appartiennent à une certaine forme de diversité qu'on appelle d'habilité. Et il faut mettre en place les conditions pour que ces gens se sentent à l'aise de se déclarer.
En effet, tu as raison, Manel, puisque l'enquête qu'on a menée avec BVA au mois d'avril 2023 nous montre que près de 3 salariés sur 5 se sentent appartenir à une ou plusieurs diversités. On parlait tout à l'heure des 11% des salariés qui se sentent appartenir à la diversité dite LGBT+. Mais tu vois, tu parlais du handicap, ils sont 15% à se définir comme étant en situation de handicap, alors qu'on sait que l'entreprise a tout juste du mal à aller chercher les 6% réglementaires, alors qu'ils sont 3 fois plus à se sentir. Donc c'est bien que l'entreprise a un vrai rôle à jouer pour justement permettre à chaque salarié de se sentir pleinement en sécurité, en confiance, pour pouvoir être pleinement eux-mêmes. Et c'est en étant pleinement elles-mêmes, pleinement eux-mêmes, qu'ils vont être pleinement performants aussi.
Mais là, tu vois, Adrien, la question, c'est pourquoi ils ne se déclarent pas ? Pourquoi ils ne se déclarent pas ? Pour nous, pareil, il y a deux angles. C'est peut-être un peu simpliste, mais parfois, les frameworks simples sont ceux qui marchent le mieux. Il y a deux angles. Ils n'y voient pas un intérêt. Enfin, cette population n'y voit pas un intérêt. Ou elle y voit un inconvénient. Ce qui n'est pas forcément... Ça ne va pas forcément ensemble. Donc... Chez Bain, on essaie de travailler sur les deux aspects. Sur l'aspect y voir un intérêt, on est en train de réfléchir à augmenter les bénéfices dont peuvent bénéficier les personnes qui font une reconnaissance RQTH et qui donc se déclarent. C'est en travail, nous avons nos plans, mais là pour le coup, dans quelques mois si tu veux, on en reparle et je te dirai, mais ça va, je pense, faire bouger l'aiguille. Mais là, donc, tu leur apportes une incentive. Si tu te déclares, t'auras droit à un certain nombre de bénéfices. Alors, c'est pas, il faut pas le voir comme la carotte, hein. Mais c'est aussi pour dire, on peut pas non plus donner des bénéfices sans savoir à qui vont les avoir. Donc, du coup, faut se déclarer. Ça, c'est la première. Et sur le côté, donc, ne pas se déclarer parce qu'on a peur que ça soit un frein. Mais là, c'est là où je te dis, c'est que de l'awareness, c'est que de la communication. C'est en promouvant, par exemple, des femmes au poste d'associé. Moi, j'étais promu en étant out, hein. Donc, tout le monde chez Bain savait que je faisais partie de la communauté LGBT et j'étais promu associé. Donc, c'est des gestes comme ça qui montrent que c'est pas parce que tu te outes, donc là, LGBT, mais aussi parce que tu dis parce que tu es une femme ou parce que tu dis que tu as un handicap, ça ne va pas freiner ta progression. Donc, on élimine les barrières qui peuvent faire que des gens ne veulent pas se déclarer parce qu'ils ont peur d'une représaille d'une façon ou d'une autre, et on augmente les bénéfices pour permettre que ça marche, sachant qu'on ne fait aucune discrimination positive. C'est-à-dire que Bain a une politique de discrimination positive zéro, où en fait, on ne promeut pas quelqu'un ou on ne promeut pas plus facilement quelqu'un parce qu'il est membre de la diversité. Mais on s'assure à 300% que si on ne promeut pas quelqu'un, ça n'a rien à voir avec un éventuel aspect de diversité que cette personne pourrait avoir. D'accord ? Et sur le sondage, Adrien, si tu me permets de revenir, si je me rappelle bien, le sondage que vous avez fait définissait la diversité d'une certaine façon. Et donc, tu t'as dit combien de 2 sur 5 ou 3 sur 5 se sont déclarés ?
Oui, 58% se sont appartenir à
58%. Chez Bain, on a fait un exercice il y a quelques temps où on a demandé aux gens de cocher des cases qui prouveraient d'être la diversité. Et on a été très large dans ces cases. Par exemple, on disait, t'es le premier enfant de ta famille à avoir le bac ou à avoir des études supérieures. Ou tu viens d'un petit village, contrairement à Paris ou voire même les autres grandes villes. Et donc, dès qu'on rajoute plus d'éléments de diversité, qui sont des éléments de diversité, Adrien ? Parce que dans les milieux business parisiens, ça fait partie de la minorité, d'accord ? Et bien, à ce moment-là, on a plus de 9 personnes sur 10 qui cochent. Et c'est ce que je leur dis tout le temps à tout le monde, tu dis... Quand vous pensez diversité, femmes, homo, handicapés, etc., vous vous dites « ça ne me touche pas ». Mais si tu ouvres tes yeux et que tu étends ton horizon, tu vas te rendre compte très vite qu'il va y avoir des situations où tu vas être minoritaire. Parce que voilà, tu te retrouves à être, excuse-moi l'expression, le seul paumé du bled à se retrouver dans une assemblée de Parisiens. Eh bien, souviens-toi ce que tu ressens quand t'es là. Ou alors imagine que t'as un accent, comme moi. T'as un accent quand tu parles. Eh bien, souviens-toi de ce que tu ressens quand les gens te regardent ou te font une remarque parce que t'as un accent. D'ailleurs, c'est un exemple qu'Elisabeth Moreno avait fait lors de la conférence d'ouverture du Grand Prix. Donc, ça m'avait marqué puisque je me suis reconnu. Donc, tu vois, diversité, le truc, c'est que quand on la limite aux 5 ou 6 aspects de diversité dont on parle, oui, 3 sur 5. Mais en fait, nous sommes tous divers. Nous sommes tous divers. Donc, si tu veux pas qu'un jour on te traite un peu moyennement parce que tu viens d'un petit village, eh bien ne traite pas non plus toi un peu moyennement une femme, un bisexuel ou une personne qui a une disabilité. Et c'est ce qu'on essaie vraiment d'inculquer chez Bain, qu'on fait des formations pour les gens seniors, Adrien, les formations ne sont pas use case based. C'est pas des formations typiques où on leur dit « alors imaginez que vous êtes chez le client et que le client va faire une remarque à une de tes consultantes, comment tu réagis ?» Ces formations-là, on les donne à nos jeunes. On les donne à nos jeunes pour qu'ils sachent comment réagir, aussi bien sur le coup qu'après. Mais aux gens seniors de l'entreprise, on les forme à réfléchir à l'inclusion. Qu'est-ce que ça veut dire l'inclusion profondément, profondément, la diversité. Et comme ça, on forme ces gens plus seniors à être capable vraiment d'embarquer la diversité dans toutes ses composantes et pas seulement dans les 4 ou 5, ou si ça se trouve, ben, en 3 ans de carrière, tu verras aucun exemple se produire. Parce que bon, c'est quand même rare chez nous que quelqu'un fasse une remarque sexiste, ça arrive pas souvent. Et donc si on se limite à ça, ben oui, les gens continueront de croire que la diversité, c'est promouvoir des femmes. Ben non, ça va bien au-delà. Mon Graal, Adrien, mais j'espère qu'un jour tu pourras m'aider, c'est arriver à la diversité de personnalité. Parce que à la fin de la fin, c'est ça. C'est la diversité de personnalité et pas d'un trait particulier, homme-femme, LGBT, black. Non, c'est cette diversité de personnalité. Mais aujourd'hui, j'ai pas encore craqué le truc. Je sais pas.
Et je pense qu'on y viendra parce que je suis complètement d'accord avec toi, Manel. Je pense que c'est le step d'après. Et finalement, c'est aussi important. Puisque quand tu parles de personnalité, typiquement pouvoir comprendre, être représentatif dans les personnalités qu'on a dans l'équipe pour pouvoir ne serait-ce que comprendre les besoins de nos clients et savoir leur répondre parce que du coup on va les comprendre, on va plus justement leur répondre et les accompagner, c'est encore une fois un sujet de au-delà du bien-être, de performance de l'entreprise. Merci beaucoup, Manel. Alors, tu as donné ton conseil tout à l'heure, qui était celui de mesurer. Donc, je ne vais pas terminer pour ça. Ça sera la première fois. Je vais juste terminer. Vous avez décidé cette année de rejoindre la communauté des acteurs engagés en matière de diversité et inclusion à travers votre soutien au groupe diversité et inclusion. Et je vous en remercie. Est-ce que tu peux, peut-être pour conclure cet épisode, nous dire pourquoi c'est important pour vous de soutenir cette initiative ?
Bon, donc tu l'as compris, hein, nous sommes très engagés dans la diversité et l'inclusion, ça fait partie de notre ADN, et donc l'un des aspects de tout ça, c'est qu'on cherche comment avoir de l'impact à l'extérieur sans forcément passer par nos clients. Puisque tout à l'heure, je t'expliquais ce qu'on fait avec les clients entre les projets et nos discussions, mais on se disait, ok, comment on peut continuer ce give back aussi dont je te parlais à la communauté. Et quand on vous a identifié, tu le sais que ça a été un peu le fruit du hasard, mais comme dans la vie, les planètes s'alignent et c'est ce qui fait parfois les choses. Quand on s'est rencontrés, ce qui nous a plu, c'était trois choses essentiellement. La première, c'est que vous êtes agnostique en termes de diversité. Ce n'est pas une forme de diversité que vous promouvez, qu'on promeut, mais toutes. Donc, c'est la diversité dans son ensemble. Donc ça, tu l'as compris que pour moi, c'était très important. Voilà. Le deuxième, c'est que vous cherchez à identifier, à récompenser et du coup à promouvoir les actions à impact. Et je ne te l'ai pas dit quand j'ai présenté Bain, j'aurais dû, mais chez nous, ce qui nous distingue, ou nous, ce qu'on met très fortement en avant, c'est l'impact. Si un client vient nous voir pour nous proposer une mission et on se dit que cette mission n'aura pas d'impact, on est capable de la refuser. Parce qu'on veut avoir de l'impact. On veut qu'il y ait un avant et un après dans tout ce qu'on fait. Et vous, vous êtes dans l'impact. Donc, ça a résonné de suite et ça fait tilt. Voilà, ça a marché. Et la troisième chose, Adrien, c'est que, mine de rien, vous êtes une organisation un peu jeune et on a envie de vous aider à vous développer. Donc, d'une façon ou d'une autre, si on peut contribuer par notre nom de marque, si on peut contribuer par le fait que, du coup, on va parler de vous, à nos clients, on va leur dire qu'on vous soutient. Si on peut vous aider à un moment donné dans une réflexion plus stratégique sur comment amener votre beau projet à un niveau d'après, tout ça, ben vous verrez en nous un partenaire engagé et qui sera prêt à vous aider. Et donc, voilà, l'ensemble de ces trois choses, tu vois, ont fait qu'on a été convaincus que vous étiez les bons partenaires ou que nous étions les bons partenaires pour qu'on travaille ensemble.
Merci infiniment pour ces mots qui nous vont droit au cœur, Manel. Et c'est important, effectivement, pour nous aussi d'avoir de l'impact et de pouvoir choisir les partenaires avec qui on travaille. Et on est très heureux, du coup, de vous avoir à nos côtés.
Et si tu me permets, Adrien, un élément que j'aimerais, les gens qui nous écoutent, s'il n'y en a qu'un qu'à garder en tête, je voudrais que ce soit celui-là. Tu connais, bien entendu, le classement Glassdoor des Best Places to Work, d'accord ? Donc, c'est un classement, pour ceux qui ne savent pas, qui en fait, c'est un survey des employés des entreprises et qui leur demande à quel point ils se sentent bien dans leur entreprise et s'ils la recommanderaient à d'autres, d'accord ? Donc, c'est pas ésotérique. On demande aux gens de Bain s'ils recommanderaient Bain. On demande aux gens de l'AFL s'ils recommanderaient l'AFL. Le facteur numéro 1 qui fait perdre des points dans ce ranking, c'est le manque d'inclusion. Si une personne ne se sent pas inclue, c'est le facteur qui va faire perdre le plus de points à l'entreprise dans ce classement. À méditer.
Merci Manel.
Merci à vous.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez tous les autres sur notre site www.afldiversity.com et n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. N'oubliez pas, la différence est une force.